8h38 minutes en ce mardi matin. Situation sur le pont, Max?
Oui, pont Pierre-Laporte, direction nord. On parle de début du pont, là, la voie droite qui est bloquée par une panne. C'est déjà difficile dans le secteur des ponts. Ça ne s'améliorera pas. Et tant qu'à être sur la route Capitale-Est, hauteur boulevard Saint-Jacques, je vous rappelle, voie de gauche bloquée. Là, c'est la voie à contresens dans la zone de chantier. Fait que la prudence est de mise.
Merci beaucoup, Max. Hey, on est-tu gâté puis pas à peu près à Rage Against le matin? Être entouré d'amis du show comme ça et avoir aussi la possibilité d'avoir des invités aussi pertinents aussi. Parce que je voulais le mentionner.
Ben oui.
C'est un feu roulant depuis tôt ce matin et ça continue avec l'ami Gabriel Giguère qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Évidemment, on va revenir sur la soirée électorale et bien sûr les résultats aussi. Gabriel, bon matin.
Bon matin.
Hey Gabriel, tout d'abord, comment tu as trouvé ta soirée électorale et comment tu analyses les résultats?
Ben, d'abord, j'ai trouvé ça assez intéressant, je dois le dire. Ensuite de ça, les résultats, ben, il fallait voir les sondages au cours des dernières semaines. On a vu un grand changement là dans l'intention de vote. Donc, ce fut pas une énorme surprise, là, malgré les deux dernières années où on voyait quand même un autre gouvernement, un autre parti au gouvernement. Je pense que la population a parlé et c'est aujourd'hui le temps d'accepter cela. Mais c'est de s'assurer également que la population comprenne les mesures qui sont proposées et mises de l'avant par le gouvernement pour s'assurer quand même d'une certaine transparence, pour s'assurer aussi que les éléments et les impacts économiques qui touchent tous les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises sont connus de tous.
Justement, éclaire-nous là-dessus, Gabriel, en termes surtout de finances publiques et de déficit. Puis en même temps, la question que j'ai pour toi, c'est à 42 % des votes qui sont aller au Parti conservateur du Canada, est-ce que tu penses que les libéraux vont s'attaquer plus rapidement à ce déficit structurel?
Je suis loin d'être sûr en voyant la plateforme électorale.
Ouais, moi aussi, là!
Quand je regarde la plateforme électorale, le plan fiscal, ce qu'on constate, c'est que cette année, ce qui est projeté en plus du 46 milliards de déficit pour 2025-2026, c'est un 9 milliards supplémentaires. Là. Donc le nouveau gouvernement libéral, ce ne sera pas un gouvernement qui va faire dans la saine gestion des finances publiques. Je pense que c'est assez clair. Mais ce qui est surprenant quand même, c'est que ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est un gouvernement Trudeau qui ne faisait pas preuve de saine gestion des finances publiques. On le disait souvent, explosion de la dette. On est rendu aux alentours de 1,4 trilliard plutôt de dollars. En fait, 1400 milliards pour être très précis de dollars. Donc on voit très bien qu'il y a eu un dérapage complet de la part du gouvernement. Maintenant, ce qu'on voit dans le cadre financier de Mark Carney et de son gouvernement, c'est quand même de redoubler dans la même approche, hein, de dire non seulement on dépensait beaucoup avant, mais je pense qu'il faut dépenser davantage. Et vous l'aurez compris que le spin, ou plutôt le narratif de la question de Trump a le dos large pour se permettre plusieurs dépenses, parce que, encore une fois, dans le plan fiscal du gouvernement libéral, ben c'est on touche à tout, là. On veut tout régler en même temps, puis ça va coûter très, très très cher aux Canadiens et aux Canadiennes, parce que sur 5 ans, sur 4 ans, pour être précis, ce qu'on constate, c'est quand même une augmentation de la dette qui serait de plus de 200 milliards. Donc,
c'est énorme.
C'est alarmant, là, je dois dire.
Oui, j'allais justement te demander, Gabriel, et évidemment, je veux une réponse professionnelle et non pas personnelle, mais qu'est-ce qui aurait été mieux pour la situation financière ou économique actuellement de notre pays? La stabilité qu'on a avec une victoire des libéraux, comme on connaît, ou du changement et une victoire hier soir des conservateurs?
Ben, je pense qu'en matière de stabilité pour les finances, il faut regarder qu'est-ce que les partis proposent. Je suis pas trop dans le... je vous avoue que je suis pas trop fan de dire « Ah, comme la stabilité ». Des fois, je trouve que c'est des mots creux. Il faut aller voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on propose de part et d'autre. Et ce qu'on constate essentiellement, c'est que du côté conservateur, on avait une approche plus prudente, une baisse des dépenses, effectivement, donc une baisse des déficits par rapport au libéral, où on pense que il faut dépenser plus. Et ça, pour revenir à la racine de leur vision économique et du rôle du gouvernement dans le développement économique du Canada et de ses provinces. Ce qu'on voit dans la plateforme électorale du Parti libéral et donc par extension du nouveau gouvernement, c'est quand même un gouvernement qui est centralisateur, qui pense qu'il va chapeauter la construction de maisons, hein, avec bâtir Maison Canada et qui est maintenant Maison Canada parce qu'on a compris que c'était pas super comme branding, mais c'est également ça pour tout ce qui est le développement, par exemple, des grands corridors énergétiques, qui est un concept qu'on n'a pas beaucoup entendu dans l'espace public, mais qui est fort intéressant de dire pour s'assurer d'exporter ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'on sait, on est fortement dépendant de nos voisins du sud de la frontière pour nos exportations et notre commerce, ben, il faudrait qu'on développe de nouvelles zones. Donc, on va pouvoir exporter notre agriculture, notre pétrole, notre gaz naturel. Bref, ce type de projet-là, les deux partis politiques l'avaient. Par contre, au niveau des conservateurs, on misait beaucoup sur une préapprobation pour s'assurer que lorsqu'il y aura de l'appétit du privé, on va pouvoir développer cela. Tandis que du côté des libéraux, ce qu'on veut, c'est déjà engranger 2,5 milliards de dollars. Il y a toujours une forme de financement sous-jacent au projet des libéraux parce qu'on pense que le gouvernement, à tout le moins le gouvernement libéral actuel, conçoit son rôle comme étant celui qui développera l'économie. Mm-hmm. Tandis que du côté conservateur, ce qu'on disait davantage, c'est déréglementons, réduisons les taxes et les impôts pour s'assurer que ce soit plus attractif pour les entreprises du secteur privé afin de développer le Canada.
Oui, en effet, c'est cet appétit-là du privé qu'il faut développer. Gabriel, j'ai une théorie, moi. Le vent avait changé de côté, du côté de la campagne électorale. Les conservateurs étaient en train de faire des gains et si la campagne avait duré plus longtemps, les conservateurs seraient peut-être le gouvernement minoritaire à l'heure actuelle. Est-ce que tu crois que ça va les forcer à déposer leur cadre financier plus rapidement lors de la prochaine élection? Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti les gens s'accrocher un peu plus aux conservateurs.
Je pense que c'est sûr que d'attendre aussi longtemps, c'est pas nécessairement la meilleure option. D'abord, c'est intéressant quand même d'avoir, ne serait-ce que pour le Canadien, le Québécois moyen, quand on écoute le débat des chefs, d'avoir accès au cadre financier de tous les
partis. Ben oui.
Ça me semble important parce qu'on peut avoir l'animateur, mais également entre les candidats, plus de challenge pour comprendre c'est quoi réellement leur vision, pas juste des promesses, de vraiment avoir la plateforme, le cadre financier pour avoir une compréhension de la vision politique et du caractère réaliste de celle-ci. Donc, pour répondre à ta question, je pense que oui. Maintenant, il faut quand même dire qu'il y a un gros facteur qui a joué, c'est quand même la question de Donald Trump dans cette campagne électorale-là. Je suis pas persuadé, hein. En fait, ça va dépendre quand sera la prochaine campagne, comme c'est un gouvernement minoritaire, donc on n'a pas de certitude que la prochaine campagne électorale sera dans 4 ans. Mais si tel est le cas, on devrait pas avoir Donald Trump au sud de la frontière. Et donc, c'est une menace tarifaire. Encore que je suis pas une liseuse de bonne aventure, j'ai pas ma boule de cristal, c'est difficile à prévoir, mais le contexte électoral sera très certainement différent.
Attention, Gabriel, on me glisse à l'oreille que Donald Trump voudrait un troisième mandat et qu'il veut il veut annexer le Canada.
Il faut faire attention avec ça, Jeff, parce que si tu regardes son Twitter, il risque d'être là en 2100 encore. Là,
donc... Hey, Gabriel, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vanter, certaines personnes vont dire trop, le CV de Mark Carney. As-tu une certaine confiance qu'il est maintenant l'homme de la situation, maintenant qu'il est officiellement notre premier ministre, pour remettre les finances du Canada sur les rails?
Je vais commencer par dire que c'est le choix des Canadiens. Okay. Donc, il y a une confiance des Canadiens, je pense que c'est assez clair. Maintenant, est-il l'homme pour remettre les finances publiques sur les rails? Ben, s'il est de bonne foi, il respecte son plan financier, ce que j'espère, la réponse est non. On accroît le déficit, on augmente massivement la dette. On peut toujours vendre ça en nous disant que c'est la plus grande crise de notre vie, puis c'est fou ce qui se passe. Puis, ben, écoutez, à la fin de la journée, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Canada, le Canadien moyen, la dette par Canadien sera plus élevée, notre dette générale va être élevée, les déficits vont être élevés, et donc ça reste la réalité. Ça fait écho avec ce que Jeff disait un peu plus tôt. Ouais. Si tous les partis l'avaient déposé leur cadre financier, on aurait rapidement compris quelle est leur vision et quel est le caractère réaliste de celle-ci. Là, c'est les deux partis qui ont fait, je dirais peut-être pas cette erreur-là, mais conservateurs comme libéraux ont inclus 20 milliards de dollars de revenus cette année liés aux contre-tarifs. Je veux juste quand même prendre un moment pour dire que ça, ce 20 milliards de revenus-là, c'est les entreprises canadiennes qui le payent, parce que c'est eux qui payent le contre-tarif. C'est les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises qui vont payer ces revenus-là. Donc, c'est des revenus dans les coffres de l'État, c'est de l'argent de moins dans le portefeuille du Québécois moyen, du Canadien moyen. Alors, cette vision-là, je la trouve moyen, si je puis dire. Donc à voir pour l'avenir, mais je suis loin d'être persuadé que ce sera l'homme de la situation en matière de finances publiques pour le Canada.
Gabriel, rapidement, 20 secondes pour terminer. Est-ce que le fait qu'on ait élu un nouveau gouvernement minoritaire qui va être là pendant quelques années va enfin faire en sorte qu'on va abaisser les fameuses barrières interprovinciales pour le commerce?
Je ne sais pas si c'est nécessairement lié à la question du gouvernement minoritaire, sauf que j'espère très sincèrement que ce sera le cas. On a eu beaucoup de discussions au sein des premiers ministres avant la campagne électorale. Je pense qu'il y a un certain air d'aller avec le dépôt du projet de loi en Nouvelle-Écosse pour ouvrir les commerces avec les autres provinces qui ont ouvert ça. Il y a un dépôt en Ontario. Le parti de l'opposition de la Colombie-Britannique l'a également déposé. Il y a un vent de changement sur cette question. On espère qu'il y aura plus de travail. Ça sera une bonne chose pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Alors, on se croise les doigts et on se croise également les doigts pour s'assurer que les finances publiques redeviendront un élément central du prochain gouvernement, parce que c'est quand même les générations futures qui vont en écoper sinon.
Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Vous l'entendez régulièrement ici à Rage Against le matin et on l'apprécie énormément aussi. Gabriel, merci pour ton temps ce matin. Toujours un plaisir, cher ami.
Un vrai plaisir partagé. Bonne journée, les gars.
À bientôt. Salut, Gabriel. Et voilà, c'est ça roule!
Un
ça
feu roule, roulant d'invités.
Hey, en musique, c'est monsieur la voix de Mike Cherona, ça?
Ben oui!
Dom Pelletier, le chanteur de Caravane. Voici Maxime.